enchaîner directement avec la table ronde à laquelle participe justement Patrick. Il y a une petite modification de programme, car la LICRA ne peut finalement être représentée. C'est dommage, c'est pas pour des raisons diplomatiques, je dirais, parce qu'on a vraiment cru à leur participation jusqu'au dernier moment, mais le président de la LICRA, Alain Jakubowicz, n'était pas disponible ce matin. Et ils auraient préféré que ce soit lui qui intervienne, je crois, vu le sujet. C'est Nelly Kemener, du coup, qui va animer cette table. Nelly Kemener, que vous connaissez déjà si vous avez assisté au colloque hier, qui est donc la conseillère scientifique du colloque et qui est maître de conférence à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle en sciences de l'information et de la communication, et qui a beaucoup travaillé sur le pouvoir de l'humour et l'humour politique. Voilà, je lui laisse la parole pour présenter les intervenants de ce matin.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence encore aujourd'hui. On va donc poursuivre en fait cette séance de la matinée par un débat, discussion avec un certain nombre d'intervenants et intervenantes. Le nom de cette table ronde, c'est Humoriste de la personne au personnage. Juste avant de présenter chacun et chacune présente près de moi aujourd'hui, il me semble intéressant de revenir un tout petit peu sur ce qu'on a voulu faire à travers cette table ronde. L'idée ici, c'est vraiment d'évoquer la question de la subjectivité, de l'énonciation aussi dans l'humour. Hein. Ces termes-là, on va sans doute y revenir, les expliciter, donner des exemples aussi de ce qu'ils peuvent vouloir impliquer ou vouloir dire. L'idée, autrement dit, hein, c'est de revenir aussi sur cette fine frontière dont a très bien parlé aussi Patrick, et notamment en évoquant les conséquences juridiques, les conséquences en termes de liberté d'expression, cette fine frontière entre humoriste, auteur, personnage, qui peut provoquer parfois des condamnations d'un humour, mais qui aussi est structurant dans l'humour, structure hein, le regard et le rire. Donc, qui parle, au nom de qui, d'où parle l'humoriste, comment cela se traduit-il en mots, en gestes, dans un spectacle ou dans un sketch? Ici, il s'agit vraiment d'aborder la question du point de vue situé de l'humoriste. Ce point de vue situé qui est implicite ou explicite, ce point de vue qui parfois se donne à voir, parfois ne se donne pas à voir, ainsi que les conséquences justement de ce point de vue situé et de son énonciation. Donc pour discuter de ces questions avec moi, j'ai donc Patrick Charredeau qui vient d'intervenir. Je ne le représente pas, mais il interviendra au cours de la discussion. Et j'ai aussi Ismaël Saïdi qui est dramaturge et acteur, auteur d'une pièce Djihad dont on parlera peut-être dans la discussion. Et Marilyn Rudel qui est sociologue, docteur de l'Université de Bordeaux et qui a soutenu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on reviendra aussi sur votre travail. Sur les humoristes et la profession d'humoriste, notamment d'actualité. Alors pour commencer cette table ronde, je propose de revenir un petit peu avec Ismaël Saïdi sur peut-être un peu justement votre position par rapport à cette question du point de vue situé de l'humoriste, de la distinction personne-personnage. En fait, ce qui me paraissait intéressant peut-être de vous demander, c'est quand vous avez fait cette pièce Djihad, il y a eu aussi toute une série d'interviews, d'entretiens. Moi, j'ai regardé un peu ça et je me suis rendu compte que vous vous disiez vous-même musulman d'ici. Alors, je précise que vous venez de Belgique, donc vous habitez à Bruxelles. Donc, l'univers culturel aussi dans lequel vous vous situez et politique est peut-être un peu différent de celui qu'il y a en France. Donc, moi, je me demandais ce que vous entendiez par ça, par cette expression de musulman d'ici et surtout, comment cela se traduit éventuellement dans vos spectacles. Voilà, est-ce que ce point de vue-là, c'est un point de vue qui est particulièrement présent dans la manière dont vous écrivez vos spectacles, dont vous les mettez en scène, et qu'est-ce que vous entendez par tout ça?
Bonjour. Merci d'abord de m'accueillir et merci d'être venu si nombreux. Vous êtes quand même nombreux, hein. Je sais qu'il y a plein d'espace, vous êtes quand même nombreux pour moi. Donc voilà, moi je viens de Bruxelles, c'est juste à côté, je suis un voisin. Et donc effectivement, si je viens, c'est parce que voilà, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Djihad. Donc c'est pas le nom le plus sexy qu'on peut donner à un spectacle, je crois. Et c'est un spectacle qui tourne beaucoup maintenant depuis un an. Il a été écrit quelques mois avant les attentats de Charlie Hebdo, et de l'épicerie cachère, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'épicerie cachère. Avant les attentats de Paris, donc les premiers, on a joué 10 jours avant. Et puis après, on a été embarqué dans une énorme tournée, parce que le spectacle reprend avec beaucoup d'humour un peu le parcours de 3 personnages. Moi, je ne suis pas humoriste, donc du coup, j'ai dû jouer un des personnages parce qu'on n'a pas trouvé de comédien pour le faire. Mais donc, il y a 3 personnages. Un qui s'appelle Ben et donc qui se radicalise. Il était fan d'Elvis Presley. C'est con, je sais. Il était fan d'Elvis Presley. Et dans sa jeunesse, il va faire un pèlerinage à Graceland. Et puis, il se rend compte qu'Elvis s'appelle Elvis Aaron Presley. Du coup, il croit qu'il est juif et il se dit « Les juifs, on ne peut pas ». Donc, il arrête de chanter, il se radicalise. Le deuxième, Reda, est amoureux d'une fille qui s'appelle Valérie. Il sort avec elle depuis 10 ans. Puis quand il demande à sa mère s'il peut épouser Valérie, sa mère lui dit « Valérie, c'est juste pour jouer, pour la vraie vie de foule musulmane ». Donc, du coup, bah, ça se brise entre eux et ils se radicalisent. Et mon personnage, celui que je joue, s'appelle Ismaël, parce que les acteurs ont leur nom sur scène, est un dessinateur. Donc, c'est un mec qui dessine depuis son enfance. Et puis un jour, à l'école arabe, on lui dit que les dessinateurs iront en enfer. Et il arrête de dessiner, il ne sait rien faire d'autre. Il décroche et il se radicalise. Alors, parler d'un dessinateur à ce moment-là, c'était assez fort. C'est une pièce drôle. C'est ça qui était aussi étonnant. Donc, c'est une comédie sur 1h15. C'est une comédie pendant 1 heure. Et les 15 dernières minutes sont moins drôles, mais c'est une comédie pendant 1 heure. Et donc, du coup, voilà, moi, quand j'ai créé ce spectacle, je m'attendais à tenir 5 soirs. Avoir 20 personnes dans la salle et ne pas me faire tuer à la fin du spectacle. Et finalement, il s'est passé un truc et ça fait maintenant 1 an qu'on tourne. On a 42 000 personnes qui l'ont vu. Après les attentats de Paris, le ministère de l'Éducation nationale nous a demandé si on voulait bien jouer pour les écoles. Donc on a joué dans les théâtres, mais pour les écoles. Et avec chaque fois un débat 1h15 après, avec les jeunes. Et donc du coup, ça nous ramène au sujet d'aujourd'hui. Du coup, effectivement, nous, on était des personnages qui revenions sur scène, donc je revenais en tant qu'auteur avec des journalistes et des islamologues pour parler à des ados un peu paumés à qui on a demandé d'être Charlie ou pas Charlie, mais qui ne savaient pas s'il y avait un truc entre les deux, qui ne comprenaient pas. Oui, mademoiselle ? Les ados, paumés ? Paumés, ils savaient pas où, ils savaient pas trop ce qui se passait autour d'eux. Il y a eu un attentat en France. On a parlé de dessinateurs qu'on tue, des gens qui le font au nom d'un dieu auquel certains dans la salle croient. Donc ils étaient complètement paumés par rapport à la situation, pas par rapport au spectacle. C'est clair ? Ah bon, je suis enregistré en plus ? Bon, d'accord. D'accord. Je répondrai après, donc quand ce sera pas enregistré. Et donc voilà, on était face à des enfants, des ados. Donc ça nous arrivait de jouer 3 fois par jour, donc à 9h, à 10h, à 13h pour les scolaires et le soir pour les tout publics. Et donc on a dû répondre à énormément de questions. Et effectivement, les questions qui revenaient souvent, c'était sur la place de l'humour, sur pourquoi. Le truc qui revenait souvent, c'était pourquoi Charlie, Dudonné, enfin toutes ces choses-là revenaient très très souvent. Donc on fallait répondre. Et donc moi, je me suis rendu compte avec ce spectacle qu'il y avait un sujet sur lequel on n'avait pas beaucoup ri, finalement, c'était, je ne vais pas dire l'islam, mais en tout cas, c'était voilà, le parcours de musulmans. Et donc, nous, on en rit beaucoup dans le spectacle. Alors, effectivement, vous dites que je me définis comme un musulman d'ici. En fait, c'est le titre d'un ouvrage. Alors, c'est quoi un musulman d'ici ? Voilà, moi, je suis un Belge. Donc, mon d'ici, c'est la Belgique, mais c'est juste à côté. Hein. Donc, un musulman d'ici, c'est un mec qui, quand il regarde l'attentat, les premières images d'attentat de Charlie Hebdo, par exemple, il voit Cabu et il se rappelle que Cabu a dessiné Dorothée. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est mon identité. C'est ça que je veux dire par là, que c'est pas antinomique. Et donc, c'est ce qu'on avait face à nous aussi, les gens. Enfin, en gros, ce que ça veut dire, le musulman d'ici, c'est que c'est un produit du terroir fabriqué ici. Voilà. C'est un peu comme un iPhone, quoi. Le design vient d'ailleurs, mais... Enfin, le design d'ici, mais les pièces d'ailleurs. Et c'est un peu ça. Donc, c'était fabriqué sur place. Et c'était important, au moment où on était en tournée, de parler de ce concept. De dire, il y a des gens qui sont peut-être d'une autre confession, athées, musulmans, cathos, juifs, que sais-je. Mais finalement, l'identité commune prime. Le fait que, voilà, que ma culture, mon éducation, ce que j'écris, l'humour que je pratique, ce n'est qu'une addition de ce que j'ai vu en grandissant, ce que j'ai vu à la télé, dans des émissions de télé, dans des spectacles, face à des humoristes. Donc c'est ça, la question. Hein, c'est sur l'humour, voilà. Donc c'était ça, parce que parfois je m'éloigne. Donc j'ai répondu. Ah, je peux pas. Waouh. Parler librement, mais je suis enregistré. Vous voyez un peu le concept. Donc on va faire avec. On va faire avec. Donc voilà, donc ce spectacle tourne. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'effectivement, dans le spectacle, je pointe deux problématiques, à savoir que la radicalisation, bon, la source de la radicalisation, d'après moi, j'ai pas la science infuse, c'est effectivement un problème sociétal, et ça tout le monde en parle, des problèmes de ghetto, etc., tout le monde en a parlé, mais ce qui est nouveau dans le spectacle, et ce qui a peut-être porté le spectacle en avant pendant des mois, c'est que je condamne aussi les pressions que les communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Donc si je vous reparle des trois personnages, ben, leur radicalisation, elle vient de chez eux, finalement. C'est pas l'État... Pardon ? Si, si, dans la pièce, oui. Ça, je suis sûr. Dans la pièce, je suis sûr, c'est moi qui l'ai écrite. Mais peut-être que dans la vie, pas. C'est possible. Ça, je suis d'accord. Mais donc, je parle juste de la pièce, là. Ah bah oui, mais je parle de la pièce. Donc, je crois qu'on va avoir un long débat, vous et moi, tant mieux. Donc, on va pouvoir discuter. Mais donc, dans le spectacle, c'est ce que je dis. Donc, en gros, ce que je dis, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est une hydre à deux têtes. Il y a un problème qui est sociétal et un problème qui est de la pression des communautés musulmanes sur leurs propres adeptes. Et ça, sur scène, c'était nouveau à balancer. Donc, comme on avait un public mélangé, donc il y avait des gens de confession musulmane, d'autres pas, ça a dû demander des débats par la suite. Et puis, voilà, quand on a un personnage comme Reda qui dit sur scène, voilà, ma mère m'a dit, Valérie, c'est juste pour jouer, pour la vraie vie, il faut une musulmane. On a des ados qui sont quand même choqués dans la salle. On a des parents qui disent, ah ouais, quand même, ça se dit, genre de choses-là, est-ce que ça existe encore? Donc, c'était... Alors, et on en rit, parce que le public en rit. Et donc, on a ri d'un sujet dont on ne rit pas souvent. On a ri de mecs qui partent quand même en série. La pièce se termine quand même sur un attentat, donc c'est pas n'importe quoi. Donc on a réussi à rire jusqu'au bout, et je pense que c'était ça dont, en tout cas nous en Belgique, on avait besoin à ce moment-là, c'est de dire on peut rire de tout. Nous, on a commencé par nous, donc moi je pense qu'on peut rire de tout quand on commence par soi. Et donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà.
On va poursuivre avec merci beaucoup Ismaël. On va poursuivre avec Marilyn Rudel. Donc Marilyn, vous avez fait votre travail de thèse plutôt sur les humoristes eux-mêmes, en allant les interroger, en leur parlant aussi de leur profession d'humoriste. On y reviendra sans doute dans la discussion ensuite. Il me semblait que votre travail pouvait être particulièrement intéressant en tant que justement il évoque aussi la manière dont les humoristes vont se positionner un peu dans le débat public, et il me semblait peut-être intéressant de vous interroger sur justement comment ces humoristes que vous avez interrogés construisent leur rôle de commentateur d'actualité et leur place dans le débat public, et comment finalement tout ça amène à des prises de position qui peuvent être parfois, j'imagine, dans la publicisation de ces prises de position, être parfois des lieux de négociation, amener un certain nombre de dilemmes pour eux. Donc je voulais voir un petit peu avec vous qu'est-ce que votre travail vous avez permis de mettre en évidence.
Merci Nelly. Alors je m'excuse d'avance parce que je vais être beaucoup plus longue, je pense, que Ismaël. Alors je vais tenter de répondre à ces questions en proposant ici des réflexions sur la manière dont une personne, avant de devenir un personnage, est avant tout et surtout, pour devenir ce personnage, un travailleur. Donc en plus d'être un homme, une femme, avec des humeurs, des opinions, des idées, des idéaux, d'être le temps d'un instant précis un personnage, c'est-à-dire l'interprète d'un scénario se voulant humoristique et énoncé sous la forme notamment dans les médias d'une chronique, d'un billet, d'une émission parodique, etc., il est avant tout un travailleur. Alors, moi, dans le cadre de mon travail, Nelly l'a rappelé, je me suis centrée uniquement sur les humoristes que j'appelle d'actualité, qui sont ou ont été employés dans les médias audiovisuels pour produire de l'humour sur l'actualité, une actualité fortement orientée vers la politique et son commentaire, et sur la dite politique politicienne. Alors, j'ai procédé effectivement par entretien semi-directif, comme on dit, avec une majorité d'entre eux, et je me suis d'abord rendu compte qu'il était ambitieux dans les entretiens, au vu des sourires suscités par les mots travail, profession, de choisir au départ cet angle d'analyse. L'hypothèse simple de départ est de considérer les humoristes effectivement comme des travailleurs, des professionnels, malgré le fait qu'eux se qualifient et s'identifient avant tout comme des artistes, un statut qui leur paraît à eux antinomique avec celui de professionnel. Alors, cette hypothèse ne peut être validée à l'arrivée que parce que l'analyse du récit, du discours des interviewés dans son ensemble, permet une compréhension des différentes manières de se dire, de se penser et se légitimer, à la fois comme artiste et comme professionnel. professionnelle, donc du coup malgré eux cette fois-ci. Car si dès les premières questions se constate une identification difficile en termes de travail, de profession est réel, les humoristes d'actualité passent leur temps dans l'entretien à décrire des techniques, des méthodes de travail, des outils, à parler aussi, parce que le travail ça peut être aussi ça, du plaisir qu'ils ont à travailler, à lire, à écrire, du commentaire sur l'actualité, à produire tous les jours, à imaginer des décalages, des vannes sur l'actualité, mais aussi à parler des contraintes, de la mécanique qui se huile à mesure d'une expérience médiatique qui est institutionnalisante et professionnalisante. Donc bien que ces termes soient courants dans le vocabulaire scientifique et notamment sociologique, ils ne font donc pas naturellement sens pour les acteurs que j'ai rencontrés, et bien que lorsqu'ils sont interrogés dans les médias, il est assez fréquent de lire ou d'entendre dire un humoriste que son métier, c'est de faire rire, ou de dire encore « on est des professionnels de l'humour ». L'usage de ces termes « métier professionnel » est là avant tout pour publiquement et socialement légitimer un statut, un rôle, une pratique, pour se qualifier en tant qu'acteur légitime dans le but et de produire un humour visant à aller le plus loin possible, selon l'expression célèbre, tant dans leur rôle de divertissement que celui de critique autorisé par des employeurs médiatiques leur délivrant une carte blanche. Enfin, concrètement, si d'un point de vue statutaire, les humoristes d'actualité sont difficiles à cerner, à identifier, à qualifier au sein de l'environnement dans lequel ils travaillent, en l'occurrence, donc dans le cadre de ma recherche, uniquement à la radio et à la télévision française, c'est aussi tout simplement à cause, entre guillemets, de la manière dont ils sont qualifiés dans leur contrat de travail qui ne correspond pas directement pour la majorité d'entre eux, voire pas du tout, avec ce qu'ils font ou ce qu'ils sont censés faire. J'y reviendrai. Et ceci vaut quand ils savent eux-mêmes déjà ce qu'il y a d'inscrit sur leur contrat de saison ou leur CDD, puisqu'aucun des humoristes d'actualité que j'ai rencontrés n'est évidemment embauché en CDI. Donc le type de questions telles que « qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur votre contrat de travail ?» après leur avoir demandé en amont évidemment la manière dont eux se définissent, c'est-à-dire quels termes ils utilisent pour dire qui ils sont ou ce qu'ils font, les a fait majoritairement sourire et rire. Donc cette donnée un peu technique, administrative, bien qu'elle semble dérisoire à leurs yeux et qu'elle puisse aussi l'être pour nous, d'une certaine façon, est néanmoins significative pour ce qu'elle révèle d'une identification, d'une qualification et d'une auto-identification et auto-qualification, d'une part située, d'autre part ambiguë et enfin complexe. Alors située car ce sont dans les médias qu'une forme particulière de professionnalisation chez les humoristes d'actualité s'est construite progressivement, notamment depuis les premières émissions de radio, puis de télé, et notamment depuis l'arrivée des talk-shows, comme Nelly l'a rappelé hier dans sa présentation. Donc, une forme aboutissant donc souvent à repérer dans des articles, des interviews, des reportages, les qualificatifs de professionnels du rire, et aboutissant aussi de leur part à intérioriser ces termes lorsque cela est nécessaire. En effet, ce sont aussi et surtout dans les médias que se jouent des moments de tentative de légitimation d'un statut professionnel implicite et une rhétorique qui va avec lorsqu'ils sont amenés à se justifier médiatiquement sur leur rôle quand des dérives sont pointées par certaines de leurs cibles, en mettant donc en avant ce statut de professionnel de l'humour. Et cette place médiatique légitime, résumée par la formule « on est là pour ça », entendu « on est là pour critiquer », statut et place leur autorisant donc une parole libre, excessive, caricaturale, parfois outrageante, en tout cas une parole pouvant parfois être entendue comme telle. Alors, de plus, cette difficulté à les identifier comme professionnels, comme travailleurs, et à eux s'identifier de la sorte, est aussi ambiguë. J'ai commencé à le dire, il est facile d'observer un décalage entre se dire, se penser dans les médias comme humoriste et être nommé officiellement, explicitement comme tel, par exemple dans les contrats donc de travail. Alors qu'ils sont embauchés, notamment dans une logique de programmation de type stratégique, concurrentielle, propre aux logiques d'action liées aux industries culturelles, que sont les médias audiovisuels, pour produire du divertissement à des créneaux horaires spécifiques, le plus souvent, entre donc deux messages d'information, Leur contrat de travail ne les qualifie pas d'humoristes. Chroniqueurs d'émissions au mieux, collaborateurs d'émissions ou techniciens d'émissions pour le moins cohérent, l'intitulé de leur métier, le nom donné à leur travail indiqué sur leur contrat, ne dit et n'oblige donc surtout professionnellement en rien tous les humoristes à devoir faire rire, à produire de l'humour sur l'actualité. Ambiguïté aussi due à l'énonciation de qualificatifs multiples et synonymiques par les humoristes eux-mêmes et revendiqués de manière à la fois subjective et collective pour dire qui ils sont. Humoristes, bouffons, comiques, pitres, éditorialistes rigolos, etc. Et sans compter toutes les dénominations tout aussi diverses et variées qu'ils se donnent, pour ceux qui en ont, qui se donnent sur leur compte Twitter. Donc tout ceci oblige et rend l'analyse de ce point de vue-là complexe en termes de statut. Se définir et être défini dans les médias comme humoriste professionnel, ne pas être généralement qualifié comme tel dans les contrats de travail et ne pas s'en soucier plus que ça, rend empiriquement un peu contrariant pour le chercheur l'analyse, dans la mesure où une fois saisi cet explicite, cet implicite, ce statut à la fois officiel et officieux, il reste à se dépatouiller avec le discours produit pendant environ une heure et demie en moyenne par les acteurs tout au long des entretiens. C'est-à-dire que à devoir rendre compte des différentes logiques de justification, il faut rendre compte des différentes logiques de justification qu'ils font autour de leur statut et de leur moment d'apparition au cours de l'entretien. Car dans presque tous les discours, on peut lire à un certain moment que schématiquement, dès qu'on devient embauché dans les médias, dès qu'on produit tous les jours, on devient professionnel. Et à un autre moment, voir ce discours être contrebalancé par l'idée que humoriste, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est un état d'esprit. Et puis, de toute façon, on n'est pas des professionnels, vu la vulnérabilité de notre place dans les médias. Donc un état d'esprit plus qu'une profession aussi quand est revendiqué ou mis en avant en premier lieu, bien plus qu'un statut professionnel, un statut donc historique, un statut de type traditionnel, celui de bouffon. Une mise en avant qui donne lieu en plus à une historisation du statut qui est faite à partir du retracement des diverses époques et des divers genres qui se sont succédés ou se sont renouvelés, le pamphlet, les libelles, la caricature, le café-théâtre, les chansonniers, etc. J'en passe, et dans le désordre. Ah ouais, 2 minutes. Ouais, donc je reviendrai. Le statut... historique est pour eux le plus important puisque c'est celui qui légitime avant tout ce droit à la critique et ce droit, encore une fois, à aller le plus loin possible dans cette critique. Alors, sur les questions de statut, je vais laisser tomber. Pardon. Je reviendrai aussi s'il y a des questions là-dessus sur la dimension... d'un statut légitimé, un statut professionnel légitimé par le travail concret qu'ils font, qui est séquencé dans le récit des acteurs par 6 étapes très précises de leur travail, et 6 étapes précises que partagent absolument tous les humoristes qui m'ont parlé de leur manière de travailler. Très vite fait, la première étape, elle est très basique, elle consiste à s'informer, la deuxième à choisir les sujets, la troisième à trouver l'angle, la quatrième à écrire le décalage sur l'actualité, la cinquième à le diffuser et la sixième à le contrôler. Alors, c'est sûr, pour les 2 minutes qui me restent, c'est sur un peu ce contrôle de la production humoristique que je vais insister, puisqu'il me semble que... Une fois que la critique humoristique est énoncée sur les ondes de télé et de radio, c'est là où se donne à voir et le lieu des tentatives de définition, voire de redéfinition, de ce qu'est l'humour, de ce qu'il doit ou devrait être, de ce qu'est un humoriste, de ce qu'il doit ou devrait être, et surtout l'occasion permanente pour les cibles visées généralement ou celles qui se sentent visées, de construire publiquement ou discrètement des lignes jaunes, comme on les appelle, visant à dire ce en quoi consiste ou devrait consister le principe de liberté d'expression, principe garant de l'acte humoristique. Alors, pour le dire autrement, la manière, en fait, dont l'humour doit ou devrait être au service de ce principe démocratique unanimement partagé, mais différemment relativisé par certains. Alors, les médias de masse sont donc à la fois le lieu, l'environnement social dans lequel il leur est donné donc cette carte blanche, une sorte de carte fictive professionnelle, un espace à la fois de publicisation d'une parole humoristique libre et en même temps une arène dans laquelle se jouent des actes de censure, d'autocensure, de sanctions, etc. Et donc, c'est dans cet espace, et c'est ça qui me semble intéressant dans le rôle du travail que font ces humoristes d'actualité, c'est que cet espace et ce travail constituent une véritable méthode critique, ludique. Alors, divertir, c'est le rôle le plus important pour les humoristes. Faire rire, c'est ce qui leur tient à cœur. C'est le rôle qu'ils aiment jouer dans la sphère médiatique. Mais c'est aussi un rôle, le rire qu'ils produisent ou qu'ils idéalement visent à produire, est aussi un alibi du second rôle qu'ils tentent de jouer, celui de critiquer. La critique et le rôle de critique qu'ils visent, l'objectif de ce rôle critique, pour eux, c'est celui de dévoiler, au sens de démasquer. Il y a une définition que j'aime bien utiliser de Boltanski, mais je la garde pour mon plaisir personnel, puisque je n'ai pas le temps. Ils ont pour but donc, de produire une critique divertissante dans le but d'aller dans le sens du dévoilement, du démasquement, de faire tomber les masques, comme ils disent assez couramment, et donc en ayant bien conscience de ce statut à la fois de soupape les amène à produire un produit fini appelé dans les médias de respiration, et en même temps, Nelly, c'est peut-être... Ouais. Et en même temps, donc, cette respiration, elle est aussi une forme de compréhension des événements. Et c'est en ça que je trouve intéressant qu'ils ne le disent pas forcément avec ces mots, mais que la critique humoristique, elle est pour eux dialectique, c'est-à-dire un moyen au public de proposer un raisonnement à chaque fois du probable sur des faits d'actualité, est capable d'être une formidable force de critique sociale et de démystification du politique. Et tout ça dans le sens non pas de produire de la vérité, c'est-à-dire de dire ce qui est vrai ou faux dans le discours informationnel, de dire ce qui est bien ou mal dans ce discours-là, d'être donc des moralisateurs, même s'ils peuvent être perçus comme tels parfois par certains, et notamment par des philosophes. Il y a eu des débats très courants, entre Stéphane Guillon et François Livonnet sur cette question-là. Donc leur but, c'est pas de produire de la vérité, encore moins du scoop journalistique, mais c'est celui de produire tout simplement du discernement, de la production de sens, comme dirait Barthes, et donc l'humour en ça et la critique humoristique à l'intérieur du dispositif technique que sont les médias dans lesquels il réside un non-dit, sert donc uniquement à produire en quelque sorte ce sens-là.
Merci beaucoup, Marilyn. On va poursuivre de toute façon les discussions, donc pas de frustration sur le fait de ne pas avoir tout lu. Merci aussi beaucoup, Ismaël. On va ouvrir un peu le débat également avec Patrick. Mais Ismaël, je voulais un petit peu rebondir finalement sur ce que vous avez rapidement présenté. Moi, il me semble qu'avec la conférence de Patrick, une question qui se pose, et Patrick Charaudeau, vous le montrez toujours très bien, hein, il y a une différence effectivement entre... la question de la liberté d'expression pose vraiment cette question de comment on identifie les intentions de l'humoriste et qui va parler, comment on identifie celle, la personne qui parle. En vous écoutant aussi, Ismaël, je me pose une question sur cette question de la liberté d'expression sur laquelle aussi est revenue Marilyn, qui est de... finalement, vous, il me semble que vous énoncez, vous, ou que votre personnage aussi de scénariste a quand même un, énonce, on va dire clairement, un point de vue situé, une identité assez forte. Moi, ce qui m'interroge, c'est justement, on parle de liberté d'expression, c'est quelque chose qui est un peu flottant, c'est plus une valeur en réalité qu'une réalité, justement. Moi, je me demandais à quel point vous avez l'impression que le fait de vous énoncer à travers une identité de musulman en Belgique, vous ouvre des espaces pour aborder justement ces questions de djihad, d'islam, de radicalisation potentiellement, ou au contraire vous enferme, et comment vous gérez ça en fait?
Alors, juste qu'on soit clair, c'est un truc, j'ai pas commencé par ça, c'est-à-dire que ce concept de musulman d'ici, qui est en fait un titre de bouquin au départ, je veux dire, c'est quelque chose qui est venu à la fin du processus. C'était vraiment pendant les débats qu'on avait justement après le spectacle, où je me rendais compte que la majorité des questions, donc on avait prévu le coup, on avait un islamologue, on avait un journaliste, donc il y avait des questions sur la presse, enfin le complot de la presse, tous ces trucs que les jeunes ressentent, des questions sur l'islam, et en fait les questions que me posaient les ados, surtout, enfin les adultes aussi, elles étaient plus en rapport, bah tiens, c'est quoi finalement être d'ici aujourd'hui, vous avez grandi où, vous venez d'où, et donc à force de répondre à ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est quoi mon identité, je me suis jamais posé la question, en fait. Je suis quoi dans tout ce concept? Et voilà, c'est là qu'effectivement cette histoire de musulman d'ici est sortie. Alors, vous parlez de liberté d'expression. Après, voilà, moi, je considère qu'effectivement, voilà, elle est censée être totale, normalement, parce que... mais bon, la liberté d'expression ou la loi ne vous rend pas drôle. Je veux dire, je peux avoir la liberté de dire toutes les conneries que je veux ici. Je veux dire, si je suis pas drôle, les salles vont se vider et à un moment donné, ça va se faire tout seul. La question, c'est ça. C'est à un moment donné, est-ce que je peux tout dire au point de blesser les gens qui sont dans la salle tout le temps et puis qui ne reviennent plus finalement. Donc voilà. Donc je pense, oui, que la liberté d'expression est totale. Après, je pense que c'est important de faire attention aussi, de se dire, tiens, à quel moment est-ce que ce que je dis va vraiment blesser complètement l'autre en face? Est-ce que c'est le but? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que la personne qui est venue voir un spectacle ou un one man, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce qu'à un moment donné, on la blesse non-stop sur certains sujets? Moi, mon point de vue là-dessus, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, moi, en tout cas, dans ce que je fais, que ce soit au cinéma ou au théâtre, quand j'écris quelque chose et que j'essaye de le rendre drôle, modestement, ben je me dis, ben je vais commencer par rire de moi. C'est un truc qui marche bien, je suis sûr de mon coup. Si je ris de moi, au moins ça me fait rire. Et je pense que quand les gens voient qu'on rit de soi, ben après on peut élargir. Je peux tout doucement passer à l'autre, commencer par rire de l'autre directement. Moi, j'y arrive pas. Je dis pas que ça marche pas. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais moi, j'y arrive pas. Donc, je suppose que la sous-question, c'était aussi, est-ce que le fait, parce que j'ai lu les questions que vous avez envoyées par mail, hein, voilà. Donc, la sous-question, c'était, est-ce que c'est plus facile, quand on est musulman, de rire de ce genre de sujet-là? Je me suis pas posé la question, moi, quand j'ai écrit le spectacle. Moi, j'ai écrit le spectacle, je l'ai expliqué souvent, je vous le réexplique, en réponse à une femme politique française qui s'appelle Marine Le Pen, que vous connaissez peut-être. Et à qui on demandait sur LCI, c'était il y a 2 ans, je crois, on demandait sur LCI ce qu'elle pensait des jeunes qui partent. Et elle a répondu que ça ne lui posait pas de problème qu'ils partent tant qu'ils ne reviennent pas. Et je trouvais que c'était hard comme truc, je trouvais que c'était dur de dire ce genre de choses-là, comme être humain, comme femme politique et tout. Et en tant qu'artiste, j'ai écrit ce spectacle. Je n'ai pas réfléchi, est-ce que je suis musulman, pas musulman. Ce sont 3 personnages, des parcours que je connais, voilà, c'est plus de la rupture identitaire que je connaissais. J'ai écrit le spectacle et on a essayé de trouver des théâtres. Personne n'en a voulu au début, ça a été compliqué. Le spectacle s'appelle Djihad, donc les affiches ont été interdites dans les métros et tout. Donc nous, on a essayé d'avoir une toute petite salle quelque part. Et à aucun moment, on s'est dit, est-ce que ça va être plus facile? Parce que bon, les autres comédiens sont aussi de confession musulmane, pas tous, mais en tout cas la majorité. Et on s'est jamais dit, est-ce que ça va être plus facile parce qu'on est musulman? C'était juste un spectacle. J'ai écrit un spectacle. Et c'est vrai que le premier soir, on s'est posé la question inverse. Quand on a regardé derrière les rideaux, la salle remplie, il y avait des gens de partout, de toute confession. On voyait des voiles, pas des voiles, enfin des noirs, des blancs, enfin de tout. Et on s'est dit, ah merde, pendant les répètes, on ne s'est pas rendu compte que ce qu'on balançait était quand même fort. Parce qu'on balance beaucoup de critiques intérieures aux communautés aussi, pas qu'au niveau de la société. Et là, nous, on a eu peur. On a eu peur pendant 2 minutes, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se faire tuer? Est-ce qu'ils vont gueuler? La salle, en plus, était remplie. Et donc, on s'est dit, ben voilà, c'est notre boulot. Moi, c'est mon boulot, je l'ai écrit, il faut assumer, t'ouvres les rideaux, t'y vas, on verra bien ce que ça va donner. Et on s'est rendu compte qu'on était nous-mêmes enfermés dans nos propres clichés, parce qu'en fait, ils avaient autant d'humour que n'importe qui d'autre et autant d'autodérision, parce que c'est un spectacle qui est beaucoup basé sur l'autodérision. Et donc, ce n'était pas plus facile ou plus difficile parce qu'on était musulmans. Je pense qu'effectivement, il y a une espèce de légitimité qui s'était mise en place, du genre, bah, ils connaissent le sujet, donc s'ils en rient, c'est qu'ils savent plus ou moins de quoi ils parlent, ce qui n'est peut-être pas vrai aussi, je veux dire, je ne connais pas nécessairement plus le sujet qu'un autre, mais je crois que ça a aidé. Ça a aidé aussi à un moment donné les salles à se dire, ah ben oui, voilà, il peut en rire, donc on va rire avec lui. Parce que c'était, au début, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas si en France c'est aussi nouveau que chez nous, mais c'était nouveau de se dire, tiens, il parle quand même d'islam, il parle de mecs qui vont pour tuer des gens en Syrie, il parle de mecs qui parlent de mécréants tout le temps, qui considèrent qu'un mec qui mange du porc, c'est un porc, enfin, des choses comme ça. Et ils arrivent à en rire et nous faire rire avec. Et donc, c'était quand même assez nouveau. Donc au début, on sentait que les rires étaient même parfois un peu gênés. C'était, est-ce que je peux rire de ça ? Bon, je vais quand même rire parce qu'eux, ils rigolent, donc je peux le faire. Ou alors qu'ils regardaient le voisin pour voir s'il riait, pour être sûr qu'il pouvait aussi. Et finalement, ça a été une thérapie pour nous et pour le public. Ça a été une thérapie pour nous de se dire, ben voilà, oui, on peut rire de tout. Oui, alors il y a des méthodes, pas n'importe comment, peut-être pas en blessant, ce que j'ai dit au départ. Mais oui, je pense qu'on peut réellement rire de tout. Je pense pas que le fait qu'on soit lié d'une manière ou d'une autre sujet et aider. Alors peut-être, moi, mon point de vue, c'est non, mais peut-être, il y en a plein qui disent que ça a pu aider. Mais voilà, je pense qu'au départ, c'était pas ça. Ça aide après pour les débats qu'on a fait. Ça, oui, là, ça aide. Ça aide effectivement quand ils vous posent des questions, bah, de dire, bah, voilà, ça, j'ai connu, je viens de là, je viens de tel endroit, tel quartier. Ça aide. Et du coup, les publics qui ressortent avec cette impression de légitimité. Mais pour le spectacle en lui-même, je ne crois pas que ça change quelque chose. On prend les mêmes personnages et je les fais jouer par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Je crois que le texte aide aussi. Le texte protège souvent les comédiens. Je pense que ça aurait marché aussi. Ouais.
Alors, c'est très, très intéressant. Alors, ça me fait penser à plein de choses. Alors, juste pour rebondir, je pense sur effectivement aussi un peu le sens de la question. Je pense qu'effectivement, par ailleurs, en France, il me semble, la question de qui peut aborder justement la question de l'islam ou des sujets autour de l'islam est assez, difficile en tant que tel, dans le sens où il me semble que je pense que les humoristes issus des minorités qui font du stand-up en France, finalement, abordent relativement peu la question, frontalement la question de l'islam. D'où le fait de ma question, parce que effectivement, je pense qu'il y a peut-être aussi des décalages ou des questionnements autour de ça. Par contre, votre réponse m'amène à poser une autre question par rapport à ce que vous disiez aussi, Marilyn, et c'est une réflexion aussi qui me semble peut-être être un peu en écho à ce que à votre cadre de théorique pour analyser l'humour, Patrick. Il me semble que finalement, vous, en passant par la question des professions, Marilyn, ça amène aussi à évoquer peut-être la question d'une identité de professionnel. C'est-à-dire que le fait qu'on soit un professionnel de l'humour, ce qui est au cœur de votre travail, bah, est aussi un lieu où on construit une identité. Et finalement, on a l'impression un peu, quand on vous entend aussi, Ismaël, évoquer cette expérience autour de cette pièce, que bah, vous ne vous posez pas la question, mais parce que c'est votre métier, ce qui est tout à fait légitime. Donc c'est ce qui passe avant tout dans votre pratique quotidienne, votre pratique professionnelle. Et en fait, quand on vous écoute aussi, Marilyn, on a l'impression que finalement, moi, la question que je me suis souvent posée par rapport aux humoristes d'actualité, c'est est-ce qu'ils disent ce qu'ils pensent ? Enfin, voilà, à quel point ils sont engagés dans ça ? Enfin, si on a des humoristes qui sont vachement à gauche, très engagés, etc. Est-ce que c'est eux ou est-ce que finalement, la pratique d'écriture, tout ça, passe avant tout ? Et je me demandais si vous pouviez considérer que cette question du professionnel devient quasiment un truc un peu identitaire qui passe avant la question plus personnelle de ce qu'on pense, comment on se positionne par rapport au débat public. Et enfin, voilà.
Mais alors, les humoristes, ils disent ce qu'ils pensent. Enfin, ce qu'il y a de fort dans leur discours, moi j'ai trouvé, et qui était unanime, c'est que tous, en fait, ils sont dans l'éthique à la fois de conviction et de responsabilité. Et quand ils disent des choses sur l'actualité en humour, elles ont... Évidemment, c'est ce qu'ils ont envie de traiter pour produire du sens sûr, mais le travail d'écriture, de lecture, les a amenés à objectiver aussi leurs propos. Il y a aussi, c'est ce qu'ils pensent, mais ils ont aussi une capacité éthique à aussi aller dans la neutralisation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des propos neutres, mais en attendant, si par exemple un humoriste dit de gauche et revendiqué publiquement de gauche, je ne sais pas moi, tel que Didier Porte, on sait vraiment qu'il est de gauche et que voilà, il y va, ça lui empêche pas non plus de critiquer la gauche. Donc il y a vraiment un humoriste professionnel, c'est un humoriste qui se donne la liberté de traiter de tout, de la manière de tout ce qui, de la manière dont il veut le faire, et avec cette exigence par contre professionnelle qui est d'être drôle. C'est quand on leur pose la question, à la limite, c'est quoi votre, si vous avez des règles professionnelles, des questions un peu dures comme ça pour eux, c'est la première à chaque fois qu'il revient, et elle peut paraître banale, mais elle fait énormément sens pour eux, c'est qu'il faut être drôle, et que la liberté aussi d'expression pour eux, c'est cette liberté. Parfois, quand le travail, ben, il est un peu routinier, que l'imagination humoristique n'est pas toujours au rendez-vous, parce que c'est tous les jours qu'il faut produire, etc., ben, la liberté, c'est aussi cette liberté de produire quelque chose de bon goût parfois, quand ça marche bien, et de mauvais goût parfois. Et la liberté aussi chez le récepteur de se dire que bon, ben voilà, c'est la question de est-ce que c'est drôle ou pas, est-ce que c'est de bon goût ou pas, mais bon, il a ce droit à le dire et ce droit au bon et au mauvais goût, parce que c'est la liberté d'expression.
Mais en même temps, ça peut susciter un certain nombre de critiques. Donc j'imagine que, enfin, pour les humoristes que vous avez interrogés, quelle technique, comment on gère justement ces critiques quand on... Enfin, j'imagine qu'il y a des mécanismes de défense presque, ouais, par rapport à ces critiques-là, ou des mécanismes de contournement.
Ouais, eh ben c'est exactement ça. C'est soit en fait quand il y a une polémique, quand un humoriste se fait critiquer, soit il ignore, parce qu'il a le droit aussi d'ignorer la critique, même si la critique a le droit, elle, d'exister, d'être publicisée et d'être visible au même titre que la critique humoristique l'est, la disqualification de celle-ci, la critique de la critique peut aussi exister. Mais l'humoriste a le droit, ben, de la squeezer, de ne pas y répondre. L'humoriste a aussi le droit, s'il veut d'y répondre, de s'excuser sérieusement s'il pense avoir commis une faute professionnelle entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas avoir été drôle, et du coup, parce que pas drôle, d'avoir blessé, d'avoir injurié ou des choses comme ça. Et il peut aussi, quand il est convaincu que ce n'est qu'une affaire de goût, et donc de bon ou de mauvais goût, et que là c'est la légitimité du goût, à la limite c'est son propre rapport au goût finalement, et donc du coup là il peut aussi décider de s'excuser de manière ironique, en ironisant et en produisant en plus de la création humoristique sur la demande implicite qui lui est faite de s'excuser parce qu'il a soi-disant attaqué ou parce qu'une cible s'est sentie visée.
Patrick, je vais vous faire intervenir dans le débat, ou à moins que vous soyez fatigué. Alors, non, mais justement, parce que je trouve que ça pose une question dont on avait discuté en off, puisqu'il y a des coulisses à ce colloque, sur la position de la LICRA, justement. Alors, on avait notamment discuté du fait que la LICRA, bah, par rapport aux différents procès qui ont été faits aux humoristes dont a parlé Patrick, a été l'une des associations qui a, disons, mené un certain nombre de procès contre des humoristes pour propos racistes et antisémites. Et récemment, la LICRA a communiqué sur RTL un changement de position assez radical, dont je vais vous lire rapidement d'ailleurs les tenants et les aboutissants. En gros, Jakubowicz, qui est donc à la tête de la LICRA, qui est lui-même avocat, Alain Jakubowicz, a regretté un certain nombre de procès qui ont été menés contre des humoristes, et il a appelé dans la suite c'est un, on va dire une continuité par rapport à, aux attentats de Charlie Hebdo. Il a appelé au contraire à une totale liberté d'expression pour les humoristes, regrettant finalement que la LICRA ait mené l'ensemble de ces procès. Et précisant, hein, je le cite, qu'un humoriste n'a pas sa place devant un tribunal. Alors, je sais que Patrick, vous, c'était une, c'était, vous avez un, voilà, un certain regard, on va dire, distancié par rapport à ces, cette position de la LICRA. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça ?
Oui, mais Nelly, si, si vous permettez, je voulais un petit peu réagir là, à ce qui a été dit du côté des... du côté des humoristes. Parce qu'il me semble qu'il y a deux choses. Hein. Il y a le statut et l'identité. Alors bon, le statut fait aussi partie de l'identité, mais le statut, c'est la partie objectivable de l'identité. On a un statut professionnel, on est reconnu socialement par ce statut professionnel. Et là, déjà, il me semble, et ça, ça doit paraître dans, dans votre enquête, qu'il y a, grosso modo, du point de vue du statut, hein, trois situations. Hein. L'une, c'est on reconnaît au statut... on reconnaît à la personne un statut d'humoriste, donc professionnellement, finalement, d'humoriste, que ce soit parce qu'il écrit une pièce, que ce soit parce qu'il fait un one-man show, que ce soit parce qu'il fait une caricature. Il y a un autre statut qui est celui du chroniqueur, surtout de, du chroniqueur qui apparaît dans les talk-shows, mais il faudrait dire dans la profession, mais non, il ne faudrait pas dire dans la profession, mais dans le rôle, plutôt, est de lancer des vannes, de réagir en lançant des vannes, mais ce n'est pas un statut d'humoriste professionnel. Et c'est là toute l'ambiguïté qui fait que dans toutes ces émissions de talk show, d'infotainment, etc., on ne sait pas où on est. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, je pense que les politiques ne devraient pas apparaître là, parce qu'ils sont forcément, par définition, piégés. Où est-ce qu'on est ? On est dans l'information, on est dans le divertissement, on ne sait pas. Et les gens qui sont là ne sont ni professionnels de l'un, ni professionnels de l'autre. Ça, c'est une deuxième situation. Puis il y a une troisième situation, statut de toute personne publique qui n'a pas profession d'humoriste, mais qui se met par ses déclarations à faire de l'humour. Et moi, j'avais cité le cas de, qui était répertorié dans la jurisprudence de Jean-Paul Guerlain, qui est le créateur des parfums Guerlain, hein, et qui a été, qui a eu un procès, qui a été condamné parce que dans une interview à la télévision, où on lui demandait pourquoi, comment est-ce qu'il s'était mis à faire des parfums, et il racontait que, voilà, tout jeune, il voulait séduire une femme et il a eu l'idée de faire des parfums et il dit que j'ai travaillé comme un nègre. Bon, enfin, je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup, mais paf, effectivement, il a eu un procès, il a été condamné. Alors, on peut discuter sur le bon mot, le jeu mot, le fait que c'est une expression toute faite. Est-ce qu'il est imputable, justement, de, d'intention de nuire ou pas ? Ce n'est pas la question, mais c'est une autre situation qui me paraît, d'ailleurs, comment dire, délicate à traiter par la jurisprudence, parce que ça voudrait dire que si on n'a pas statut d'humoriste, dès lors que l'on parle dans l'espace public, on n'aurait pas le droit de faire l'humour. Ou alors, il faudrait faire attention à l'humour qu'on fait. Là, du coup, on n'est plus dans la liberté totale qui est revendiquée par les humoristes de profession et de dire, oui, on doit pouvoir faire de l'humour du tout. Maintenant, la question de l'identité, c'est autre chose. Bon, ça, ça fait un peu partie de l'identité. C'est autre chose. C'est d'où on vient, qui on est, comment on pense, quelles sont les valeurs que l'on défend, etc. Et alors, tout ce que vous avez dit me rappelait ce que disait Océane hier. Il disait, ben, au début... Moi, je ne me posais pas la question si je faisais de l'humour en tant que lesbienne ou pas. Et vous, vous avez dit au début, je ne me suis pas posé la question de savoir si je faisais de l'humour en tant que fils d'immigré, pas fils d'immigré, d'ici, de là, etc. Bon, ça, c'est des problèmes identitaires. Hein. Et là, je pense que dans ce cadre-là, protégé quand même par le statut, parce que vous êtes... professionnel de l'humour, c'est là qu'à mon avis, tout se joue. Et moi, je, une fois de plus, je ne peux pas juger ça, mais à mon avis, c'est là que tout se joue. Et c'est là qu'on en revient maintenant à qui juge. Parce que s'il y a des gens qui arrivent et qui pensent par avance que lui, c'est un suppôt d'eux, hein, ou que lui, il défend ça, ou que lui, il critique ça, alors on va projeter sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, on va projeter ses idées, et c'est comme ça que finalement, on impute une qualité d'antisémite, de raciste, etc., à quelqu'un qui pourtant pourrait essayer de s'en défendre, quoi. Guy Bedos, bon, il s'est défendu de ce que, surtout lui, ancien, ayant vécu en Algérie, etc., bon, il s'est défendu, il disait, mais je ne suis pas contre les Arabes. Bon. Donc là, il me semble que la LICRA, c'est bien qu'elle ait fait cette espèce d'acte de reconnaissance, là, cette espèce de confession. Parce que, alors, oui, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut avoir un effet contre-productif. Donc, finalement, soit on stigmatise, soit on héroïse, hein, l'autre. Mais alors, ça c'est mon côté un peu libertaire, j'aurais envie de dire que faut quand même que ça existe. Parce que s'il n'y a pas des critiques que l'on fait sur les spectacles humoristiques, s'il n'y a pas de dénonciation, s'il n'y a pas de procès, ça n'existe pas. Donc autant qu'il y en ait. Et ça fait exister, en tout cas, ça fait exister, ce qui me paraît important, le débat social. Alors évidemment, le problème du débat social, hein, vous savez, c'est qu'on a de tout, c'est une auberge espagnole, il y a tous les types d'arguments, il y a les contre, il y a les plus radicaux, les moins radicaux, etc. Mais enfin, voilà, si vous voulez, l'ambiguïté dans laquelle on se trouve, et moi je pense que c'est bien que ça existe. Et quand j'appelais simplement à la prise de conscience de la responsabilité, parce que vous vous disiez tout à l'heure, oui, bon, oui, on peut faire de l'humour sur tout. Puis quand même, à chaque fois, d'ailleurs, ça paraît aussi dans le cas, à chaque fois, il y a, bon, évidemment, il faut faire attention. En fait, il faut faire attention, c'est parce que je pense qu'un humoriste ne peut pas ne pas penser à la connivence qu'il établit avec l'autre. Voilà. Et donc, dans ce rapport à connivence, il faut qu'à un moment donné, on soit un certain nombre à pouvoir partager cette espèce d'éclatement du monde que l'on propose à l'autre.
Ismaël, en fait, en écoutant Patrick, je me disais, mais justement, est-ce que vous avez déjà... alors, j'aime pas trop les termes de peur, tout ça. C'est un peu compliqué, j'imagine, même pour vous, dans votre pratique au quotidien. Mais... quand vous écrivez un spectacle comme Djihad, enfin vous dites qu'il y a des techniques, voilà, aussi pour contourner peut-être un certain nombre de critiques, essayer d'être drôle, etc., pouvoir parler de sujets délicats. D'une part, c'est un peu quoi ces techniques-là? Et ensuite, est-ce que finalement, vous êtes déjà clairement posé la question de ça? Est-ce que je peux le dire, quoi, en fait, tout ça? Enfin, est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est entendable, quoi?
Oui, alors bon, moi au départ, encore une fois, bon, ça peut être technique générale, c'est juste moi. Moi, j'aime pas blesser, ouais, c'est comme ça. J'aime pas, ça me fait pas rire, rire sur le physique de quelqu'un, ou c'est pas des trucs qui me font rire. Je veux dire, à la rigueur, je vais rire sur le mien, et ça marchera mieux. Mais puis il y a plein de trucs à rire sur mon physique, mais j'aime pas trop rire de l'autre. J'aime pas. Donc quand j'écris un spectacle, j'essaie toujours de ramener et d'imaginer que je suis assis avec quelqu'un et que je blague avec ce quelqu'un. Et alors si je suis assez con. Enfin, en gros, si je blague avec quelqu'un et que je me rends compte qu'après 20 minutes, le mec il rigole pas et qu'il est blessé, je suis plus un humoriste, je suis un con. En fait, c'est tout simplement ça. Le mec il rigole pas, ça fait 20 minutes que j'essaie une blague. Au contraire, ça le blesse. Donc, j'essaye quand même d'éviter ça. Non pas pour éviter la critique ou même les menaces. C'est pas ça qui est mon moteur et qui me fait peur. Non, juste pour. Parce que je pense que quand on a envie de faire rire, c'est qu'on a envie de faire du bien, parce que le bien qu'on fait aux gens revient sur la scène, et donc c'est un partage de bien. Ça tourne en circuit fermé. Donc si j'ai envie de faire du bien à l'autre, j'ai quand même envie de ne pas le blesser. Encore une fois, ça n'engage que moi. Et du coup, ça revient. Donc du coup, c'est la seule limite que je me mets. Je me dis, tiens, est-ce que je suis drôle là, ou est-ce que je blesse? Et je pense, je vais prendre l'exemple de Coluche, parce que j'aime beaucoup Coluche, je suis un grand fan. Je prends l'exemple de Coluche. En plus, il a fait plein de blagues belges, lui, Coluche. Il imitait l'accent bruxellois, je sais pas d'où il l'a inventé, mais bref, il imitait l'accent bruxellois. Et donc, une des raisons qui fait qu'en tant que Belge, moi, je peux pardonner à Coluche, et qui me fait toujours rire, c'est qu'il n'a pas fait que ça. S'il avait fait un spectacle d'une heure quart sur les Belges, je pense qu'à un moment donné, vous dites, écoute, c'est bon, ça te fait chier, c'est bon, t'arrêtes pas avec ça. Je pense que ce qui faisait la beauté de quelqu'un comme Coluche, c'est qu'il passe, il a fait l'accent belge, puis il a fait le beauf bien franchouillard, le raciste, la mémé, enfin, il a fait un peu tout le monde. Donc à ce moment-là, on se dit, bah, tiens, Tout le monde en prend pour son grade. Je suis dans le package, je suis avec tout le monde, donc rions ensemble. Je pense qu'elle est là aussi. Et dans Jihad, ce que j'ai fait, c'est que je ne parle pas que d'islam, je ne parle pas que des musulmans. On rit de choses de la vie de tous les jours, on rit de bêtises qui pourraient arriver à n'importe qui. Donc, il y a un équilibre à trouver. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais il y a un équilibre à trouver pour ne pas focaliser sur les mêmes. Et ce qui se passe souvent, et, et je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on peut arriver à des procès, c'est que certains humoristes, certaines troupes, à un moment donné, focalisent. Et vous focalisez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et les meilleures sont les plus courtes. Puis vous dites, bon, voilà, c'est pas drôle, quoi. Je veux dire, c'est quoi le but? C'est que si je focalise moi sur un ami qui est là et que j'arrête pas de rire de lui devant les autres, en disant, ben, c'est quoi le but? C'est que tout le monde se mette à rire de lui aussi, et qu'à un moment donné, il devienne bouc émissaire, il devienne victime permanente. Donc je crois que il y a ça. J'essaye aussi d'équilibrer en me disant, non, il faut quand même qu'on rie un peu de tout. Et pas toujours des mêmes. Et voilà, je prends l'exemple de Coluche, que je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense vraiment qu'il a un énorme panel lui aussi, qu'encore une fois, on ne lui aurait peut-être pas pardonné s'il était resté scotché sur le même sujet tout le temps pendant des années. Là, vous baissez les bras, vous dites « Ok, c'est bon, c'est plus de l'humour, ça c'est de l'attaque. »
Marilyn, dans la lignée, pareil, un peu de ce qu'explicitait Patrick, effectivement, aujourd'hui, moi, je suis tout à fait d'accord avec le constat ou le diagnostic que pose Patrick quand il dit que les émissions aussi sont devenues des émissions, des dispositifs médiatiques dans lesquels les rôles de chacun sont devenus de plus en plus flous, voilà, pour le dire un peu autrement, et dans lequel y a un mélange finalement de beaucoup de genres. Tout le monde est amené à faire un peu des blagues. On a un peu sacralisé ou mis sur un piédestal cette idée du bon mot, de la vanne, mais finalement ça brouille un petit peu les propos, les statuts, les rôles de chacun. Et je me demandais justement si les humoristes que vous avez interrogés, quand ils parlent de toutes ces techniques pour faire rire, de ces méthodes, dans ces techniques d'écriture, quand ils ont toute cette espèce de rituel finalement d'écriture, hein, que vous présentez très très bien en plusieurs étapes, est-ce que c'est pas une façon pour eux aussi de gérer ce dilemme qui est d'intervenir dans ces dispositifs médiatiques? C'est-à-dire comment ils parlent aussi du lieu où ils interviennent, ces émissions, ces différents dispositifs médiatiques dans lesquels finalement leur statut, parfois ils sont dans des matinales d'infos, parfois ils sont dans des émissions de divertissement. Enfin, il y a plein de lieux et j'imagine qu'ils n'ont pas la même façon de se positionner par rapport à ces différents lieux et que des fois ça amène des difficultés aussi.
Mais pour eux, au vu de leur discours, il n'y a pas de dilemme en fait. Leur travail, c'est de produire de l'humour sur une actualité, de décaler un message informatif sérieux en un message humoristique, présenté donc du coup comme pas sérieux. Mais évidemment, s'il est autant pris au sérieux, ce message humoristique est analysé, c'est parce que, on sait bien que ce qui est mis en humour sur l'actualité par ces humoristes, ça dit bien plus qu'une simple blague en fait. Ça révèle parfois. Océane a parlé hier de DSK, des sketchs limites prémonitoires, visionnaires. Du coup, on sent bien qu'il y a toute une capacité par l'humour. Et quel que soit l'endroit, à la limite, dans l'espace dans lequel il se trouve, si c'est entre deux messages d'information ou après un journal télévisé ou dans une émission de divertissement, le but est toujours celui d'amener... Et c'est pas ridicule de dire ça, je pense que quand ils sont vraiment sérieux, quand ils disent en entretien que leur but, c'est de faire rire, et quel que soit, à la limite, l'endroit où on les place médiatiquement. Ils veulent vraiment, et ils ont à cœur de tenir ce rôle de divertisseur, d'amuseur, c'est pas péjoratif pour eux, et ils ont à cœur de le tenir parce qu'ils savent aussi que derrière l'amusement, ils ont aussi cette capacité à produire de la réflexion. de la contestation parfois, de la dénonciation quand le non-dit est trop flagrant du côté du politique ou le raccourci journalistique est, mérite d'être traité avec humour pour montrer la contradiction à la connivence parfois journalistique envers certains politiques. Mais finalement, quel que soit le lieu, c'est, pour eux, c'est l'espace où il faut respirer, où il faut être drôle, dans la mesure du possible, encore une fois, de la quotidienneté, parce que la quotidienneté affaiblit aussi, ils le disent tous, la créativité, l'imagination humoristique. Et en même temps, bon, ben, la quotidienneté, ça a aussi une fonctionnalité critique, dans le sens où c'est aussi parce qu'ils sont là tous les jours qu'il y a potentiellement, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois, mais ces coups de force un peu symboliques qu'ils arrivent à produire, et ces coups de force symboliques qui produisent, qui génèrent de la polémique, de la controverse, et cette controverse qui suscite globalement le débat public, et donc de la discussion publique.
Oui, juste un mot là, parce que ça m'a rappelé quelque chose, c'est que pour toutes les situations qui ne sont pas du contrat humoristique, c'est-à-dire l'humoriste sur scène, etc., la différence entre la vanne et le trait d'esprit, l'humour, etc. Dans des situations comme les talk-shows, par exemple. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ce genre d'émission. Parce que la vanne est toujours adressée contre, alors que le trait d'esprit peut se faire à propos d'eux, un tiers, hein, comme vous le disiez, pour que l'autre soit partage. Tandis que la vanne, elle est toujours adressée contre. Et donc, elle méprise la vanne. Et c'est pour ça qu'on ne la trouve que justifiée que dans un domaine, qui est le débat politique. Parce que dans le débat politique, il faut tuer l'adversaire. Donc, ça va, on peut se permettre de lancer des vannes pour essayer, alors soit en direct, dans les débats, soit par déclaration interposée. Mais là, on peut, etc. Alors que dans d'autres situations, à mon avis, ce n'est pas la vanne qu'il faudrait pratiquer. C'est soit par un spectacle, soit par un bon mot, comme ça, mais qui n'est pas adressé directement à quelqu'un contre. Donc, il y a vraiment une différence entre la vanne et le bon trait d'esprit qui, lui, participe du monde humoristique.
Juste pour rebondir sur cette histoire de vanne, à mon avis, la conception aussi que les humoristes ont de la vanne, c'est parce que, et si elle est contre, c'est parce qu'elle s'adresse à une vision qu'ils ont de qui sont les puissants, en fait. Et si c'est contre, c'est parce que s'il y a de la vanne dans les talk shows, c'est parce que c'est l'endroit où, pour eux, puisque les politiques, pour eux, c'est les puissants. C'est un procédé, c'est un usage qui est fait pour aller confronter, titiller ce puissant, l'image de ce puissant qu'ils ont en face d'eux.
Oui, dans la situation.
Dans la situation, exactement, oui, c'est ça. Oui.
Pas celle de
scène. Non, complètement. Oui.
Comme on a pris un peu de retard, on va finir à 13h45. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions du public. Donc, il y avait des remarques différentes. Il y a quelqu'un là et là-bas.
Alors, merci beaucoup pour ce panel très intéressant. En fait, j'aurais une question pour Marilyn, et peut-être que M. Charadeau pourra rebondir aussi avec ses connaissances de la jurisprudence. Quand vous parliez au niveau du travail des humoristes, de ce débat entre la carte blanche en même temps, en étant dans une arène où se vit une certaine censure, je ne sais pas si c'était ressorti au travers de vos entretiens, le rôle des avocats ou encore des producteurs des émissions. Est-ce que les textes doivent être soumis à une autorité légale avant d'aller en onde pour s'assurer qu'il n'y aura pas de poursuite en diffamation, des choses comme ça, ou si vraiment la liberté est totale et on verra après coup si il y a quelque chose sur lequel on doit se défendre?
Alors, sur ça, enfin, de ceux que j'ai interrogés, la liberté est, je vais dire, totale, puisque aucun d'eux se fait relire le travail avant une chronique. Et Alors, quand il y a, pour ceux qui ont un producteur, il se peut que, je pense, Nicolas Canteloup, mais il y a aussi les guignols de l'info, Yves Le Roland, qui est producteur artistique de l'émission, qui lit le scénario produit par les auteurs des guignols, et qui, mais c'est pas une lecture de censure, c'est une lecture de complémentarité en fait. C'est une lecture qui n'est pas là pour juger de ce qui est susceptible d'être attaqué en justice. C'est une censure drôlatique, encore une fois. C'est vérifier si vraiment le challenge du rire en tant qu'effet va pouvoir être atteint. Et donc, du coup, enfin, c'est pour ça que, évidemment, quand ils parlent de leur liberté, les humoristes ont tendance à dire, et bon, au début, je faisais un peu les yeux un peu étonnés, mais la liberté est totale, ils me disent, ben, moi j'ai envie de les croire, puisque. Mais encore une fois, la liberté est totale, ça ne veut pas dire qu'il y a un acte d'autocensure, mais encore une fois, cet acte d'autocensure, il est à chaque fois systématiquement rattaché à la question de la dimension drôlatique. Est-ce que moi je me fais rire? Je me souviens de ce que me disaient les auteurs pendant qu'ils écrivaient. Ils me racontaient, les auteurs des guignols, que il faut avant tout, pendant l'écriture, se faire rire entre nous. Alors, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent tous les jours à se faire rire parce qu'ils produisent 8 minutes quotidiennement. Mais après, c'est ce qu'ils appellent les ficelles, c'est ce qu'on appelle les ficelles, l'utilisation de ficelles. On sait que, ben voilà, y a là une petite vanne, un petit décalage qui marche, c'est systématique. Donc on va l'utiliser quand on n'est pas inspiré. Mais voilà. Fin.
Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui est passé tout récemment, justement, sur le travail dans la rédaction de Charlie Hebdo, quelques temps avant, ce qui était très dur de revoir ses amis vivants. Et ils ont travaillé sur la fameuse une de Charlie, qui était le prophète qui est adoré par des cons. Hein. Bon. Alors on voit tout le travail, qu'il y avait Volensky qui a fait sa proposition, Cabu qui a fait sa proposition, finalement c'était celle de Cabu d'ailleurs qui a été retenue. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que, a priori, il ne se posait pas du tout la question, comme je suppose que vous ne vous la posez pas, de est-ce que je vais avoir un procès au cul ou pas, est-ce que je vais... Non, il y avait, quelle était la meilleure des propositions, c'est ça. Bon, au départ, je pense qu'un humoriste, il fonctionne beaucoup plus comme ça, parce que sinon, bon, c'est ça, sinon ce serait l'autocensure. Mais il me semble qu'au bout du coup, la question, c'est la manière. Et ce qui apparaissait très bien dans ce document, c'est qu'il ne se posait pas le problème de la caricature de Mahomet, il se posait le problème de la manière. Comment est-ce qu'on va le représenter? Et puis, à travailler sur une manière, puis une autre manière, puis une autre manière, d'un seul coup, paf, arrive, voilà la bonne manière, enfin de notre point de vue, voilà la bonne manière. Donc je pense qu'a priori, un bon humoriste ne pense pas au procès qu'il peut avoir.
D'accord. Oui, d'accord.
Bonjour, en fait, vous avez répondu finalement à mes questionnements, donc ça va. Mais là-dessus, sinon c'était pas drôle. Sinon, je voulais vous demander, en fait, quand vous dites la manière, finalement, c'est plus. Enfin, il faut parler de manière, finalement, ça devient un art, non? La meilleure manière.
Donc ça devient un art, c'est ça?
Oui, enfin, Vous entendiez, enfin, vous entendez quoi par meilleure manière, en fait? Est-ce que ce n'est pas finalement un art?
Enfin bon, alors je pourrais vous renvoyer la question, qu'est-ce que c'est que l'art? Parce que c'est bien difficile. Non, je pense que tout ça est très subjectif. De toute façon, subjectif, mais subjectif en rapport avec le groupe, le groupe qui pense à la manière ou les interactions avec les individus, etc. Et que, personnellement, je ne ferai pas d'hierarchie dans les manières. C'est simplement qu'à un moment donné... je vous dis, regardez ce document-là sur Charlie, parce que c'était bien ça. C'est qu'à un moment donné, ce groupe-là qui discutait, et c'était tous des gens de dessin, de caractère, disent, bah, ils ont beaucoup réfléchi, hein, au point qu'il y en avait qui s'énervaient, qui disaient, bah, alors quoi, on prend une décision, on ne prend pas une décision. Ils avaient affiché les propositions sur le mur, là, ils réfléchissaient, etc. Puis à un moment donné, il y a un consensus qui dit, c'est celle-là. Bah, voilà, c'est la manière à l'occasion.
Je voudrais juste dire un petit truc par rapport à votre question. Là, on a parlé de dynamique de groupe aussi. C'est important, c'est quand même différent. Là, on a par exemple un groupe des Guignols qui écrivent. Donc, il peut y avoir un écho. On peut faire une blague et dire « Ah, ben, ça, c'est drôle, c'est la meilleure blague. » Même chose, par exemple, pour Charlie. Ils sont un groupe, ils prennent une décision. Plus compliqué quand on est seul à écrire parce qu'on n'a aucune certitude que ça a marché. Alors là, aucune. Je veux dire, à un moment donné, je pense, alors je parle encore une fois pour moi, je ne sais pas comment ça marche pour les autres, mais le processus d'écriture, c'est même, à un moment donné, c'est même plus drôle. Je veux dire, ça y est, vous voyez où vous voulez en arriver, et puis vous continuez à écrire, surtout quand c'est une pièce, plus que juste un sketch. Je pense que finalement, alors la seule manière qui reste, ben, vous le savez le jour même quand ça marche, c'est un risque. Je crois qu'on ne fait pas ce métier si on n'aime pas le risque, dans tous les cas. Mais le risque, il est là. Le risque, il est là d'avoir écrit un truc, de se dire, c'est la meilleure manière, je pense que c'est drôle. Je pense vraiment que c'est drôle, ce truc. Ils vont tous vraiment se taper le cul par terre. Puis d'arriver sur scène et se rendre compte que, ah ben non, en fait, pas du tout. Une première fois, ça ne marche pas. Une deuxième fois, une quinzième fois. Donc je pense que cette part risque, il ne faut pas l'oublier, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait que des gens font ce métier, cette part de risque-là, il n'y a pas de filet à un moment donné. Et en télé, c'est aussi hard parce que c'est vrai qu'ils recommencent tous les jours, ils recommencent tous les jours, ils recommencent tous les jours. Pour des magazines, c'est la même chose. Pour écrire une pièce, en tout cas pour moi, ben, t'es seul dans ton coin et t'espères à un moment donné que peut-être quelqu'un au fin fond de la salle va rigoler. Et c'est à ce moment-là, quand ça rit beaucoup, quand ça rit souvent, quand ça rit pendant plein d'autres présentations, que tu te dis, ok, ben, peut-être c'était la bonne manière, mais pour ce spectacle-là, peut-être que je vais en écrire un l'année prochaine où je vais essayer de remettre la même recette et ça ne marchera pas du tout. Donc je pense que voilà, il y a effectivement la dynamique du groupe où on a quelqu'un en face et on sent que la blague elle marche entre 5-6 personnes. On se dit ah bah ok, ça c'est le truc qui nous fait bien rigoler. Puis et je crois qu'il y a énormément de monde qui travaille seul aussi. Puis il y a ceux qui sont seuls dans leur coin et qui espèrent en disant ouais, ça je crois que ça va être drôle. Après effectivement il y a des ficelles, mais je crois qu'on ne sait jamais finalement c'est quoi la bonne manière. Pardon ? Oui, bien sûr, il y a des références. Ah oui, tout à fait, et on les sent. Je crois qu'on a tous des références à un moment donné. Tu sens que les références d'un tel sont plus proches de tes proches, l'autre est plus proche de Coluche. L'autre. Je pense qu'on a tous, on est tous l'addition de la culture et de l'éducation et du rire qu'on a connu. Donc à un moment donné, tu choisis vers quelle voie, même au cinéma. Certains vont aller vers De Funès et un truc plus mimétique que sur le dialogue. D'autres vont aller vers un genre des inconnus où on est plus dans le dialogue et vers les trios. Moi, le spectacle, par exemple, que j'ai fait, ben, on sent les références aux inconnus mais, et à Astérix. On le sent. Alors, on va dire Astérix dans le diète, c'est quand même bizarre, mais ça pourrait exister. Mais on sent ces références-là, bien sûr, parce que j'ai grandi avec des BD d'Astérix dans les mains et que c'est ce qui me fait rire et que Coluche me faisait rire et que les inconnus, le coup du trio, c'est pas pour rien qu'ils sont trois à partir en djihad, le coup du trio avec toujours deux qui se mettent face à un, c'est pas une méthode, c'est que ça me fait rire, ça me fait toujours rire, ça marche toujours. Et donc du coup, bah, effectivement, ouais, les références, dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Moi, tu sens des références à chaque coup de crayon ou à chaque touche de clavier.
Ça, c'est formidable parce qu'un un chercheur, il rit jamais de ce qu'il écrit lui-même.
Moi, je voudrais juste rebondir sur Charlie Hebdo, sur ce reportage qui filmait la séance de rédaction. Je voudrais aussi souligner que, parce que moi, je les avais observés, ils m'avaient permis ça pour une enquête, et c'est pas uniquement cette réflexion sur la manière, sur les sujets sensibles. Notamment la une du prophète Mahomet, c'est un voilà, sujet sensible, tout ça. Mais ils le font pour absolument tous les sujets, qu'ils soient de la petite politique à les sujets voilà, religieux auxquels en plus ils savent qu'ils sont confrontés à une certaine lecture. Donc ils ont vraiment cette réflexivité permanente sur quelle est la meilleure manière en se posant les questions, en regardant, en s'observant aussi, rire, se montrer colérique, etc., etc. Ils se posent vraiment pour tous les sujets.
D'autres questions ? Ah.
Le problème, c'est que les gens commencent à partir déjeuner aussi.
Oui, on va demander des questions courtes et des réponses courtes.
Ça va être très court, et puis c'est en lien avec ce qui vient après. C'est donc je m'adresse à mademoiselle la sociologue. C'est par rapport au fait d'écrire.
Madame
la sociologue, pardon. C'est le fait d'écrire tous les jours. Enfin, vous avez rencontré des personnes qui doivent écrire tous les jours, ce qui doit être absolument du domaine de la folie pour trouver des idées tous les jours, et avec cette obsession d'être drôle. Et vous aviez parlé de ficelle, en fait. Est-ce que vous avez trouvé des redondances parmi, alors que je suppose qu'ils ne se connaissent pas ou qu'ils ne travaillent pas ensemble, d'auteurs qui arrivent au même réflexe, finalement, face à cette urgence de la quotidienneté en écriture comique ?
Merci. Enfin, c'est juste bon. Il y a cet usage des ficelles, tout ça. Mais je voudrais quand même dire que bon, même si c'est dur, il y a ce côté un peu dur d'écrire tous les jours, de trouver l'inspiration, tout ça. Mais ils sont quand même largement, comme ils le disent, très aidés, parce que l'offre informationnelle, l'offre sur laquelle ils s'inspirent, la matière première journalistique, puisque leur décalage humoristique se fait à partir de ce qu'ils lisent dans l'actualité, de ce qu'ils voient, elle est quand même abondante. Donc finalement, ils ont, au fur et à mesure de l'expérience, pas du tout peur de devoir produire tous les jours, même si par contre, ils prennent au sérieux le fait de chercher à se renouveler en permanence, d'être le plus drôle possible. Enfin, du coup, voilà, c'est à la fois contraignant et à la fois très stimulant d'avoir une source d'inspiration qui peut parfois paraître redondante, mais en même temps, il y a cet effort réflexif qu'ils font pour essayer d'être imaginatif à chaque fois. Et après, ils se connaissent quand même, hein. Ça circule, même si tous ne se connaissent pas, tous ne se côtoient pas. Il y a quand même aussi, il faut le dire, beaucoup de travailleurs de l'ombre dans le processus de création et d'écriture. Il n'y a pas que les humoristes professionnels interprètes, il y a aussi tous ceux qui sont les auteurs, les travailleurs invisibles, et qui souvent sont auteurs pour plusieurs humoristes. Alors vous imaginez la gymnastique en fonction du style et des procédés que préfèrent plus un tel qu'un autre, donc du coup, et puis les ambitions aussi individuelles de ces auteurs de l'ombre, d'en garder aussi un peu pour soi, pour essayer un jour d'acquérir une réputation médiatique ou une visibilité de leur travail, de leur imagination, de cette capacité à eux aussi faire comme les autres, etc., etc. Enfin,
oui. Il y avait une dernière question là-bas, Jérémy.
Premièrement, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et j'aurais une question, en fait, parce que vous avez pas mal parlé du coup de l'engagement d'un humoriste, c'est-à-dire le fait qu'il se doit dénoncer, de critiquer. Et je me suis demandé s'il existait du coup un humour pour l'humour, une boutade pour la boutade. Peut-on rire pour rire juste, ou est-ce que la dénonciation et la critique sont la condition de naissance d'un humour ?
Je vais déjà répondre pour moi, c'est déjà mon début. Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, les premiers sketchs que j'ai vus dans ma vie, je crois que c'était Fernand Reynaud. J'ai pas l'impression qu'il dénonçait un truc. C'était un sketch sur l'autoroute avec des flics. Je crois pas qu'il dénonçait quoi que ce soit. C'était super drôle. Je pense, oui. Je pense pas que ce soit une fonction première de dénoncer. Je pense pas. Après, ça vient. Après, effectivement, si ça arrive un jour où t'as un coup de gueule, tu vas dénoncer la raison pour laquelle tu as le coup de gueule. Et des moments, tu as juste envie d'écrire un truc drôle sur deux personnes qui font rire. Je parlais des inconnus. Il y a des sketchs où ils dénoncent de manière assez drôle quand on prend Skippy, des trucs sur les sectes. Puis il y a des sketchs où ils dénoncent rien, où ils ont juste envie de rire. Quand ils rient des flics dans ce fameux sketch où ils sont où ils sortent de la bagnole, ils referment 20 fois la porte de la voiture, etc. Je crois pas qu'ils dénoncent ça. Je pense qu'à un moment donné, tu as envie de faire rire pour faire rire. Puis après, ça vient en plus. Il y en a effectivement qui ont des choses à dénoncer, donc ça devient après récurrent. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une fonction de dénoncer. Après, ça dépend du parcours de la personne. Et effectivement, je terminerai là-dessus. On parlait d'identitaire et on m'a souvent posé la question, parce que bon, j'ai fait d'autres choses avant le djihad, j'ai fait du cinéma, etc. On dit, enfin, on retrouve souvent un point commun. Alors, il y en a qui dénoncent. Chez moi, on retrouve l'identitaire, fils d'immigré, l'origine. Puis à un moment donné, c'est parce qu'au début, quand vous commencez, Le plus facile, c'est de parler de ce que vous connaissez. Donc vous parlez, vous commencez par un cercle, le plus petit cercle, et puis on l'élargit au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on rencontre des gens. Et donc c'est vrai qu'après, on peut trouver une espèce de dénominateur commun. Il y en a qui vont dénoncer, ils ont vécu des choses, donc ils vont les dénoncer avec humour. D'autres vont parler plus, comme Jamel, quand il commençait, il parlait plus de sa famille, de son quartier, parce que, pas pour dénoncer, mais c'était ce qu'il connaissait, c'est le premier cercle, après on s'éloigne. Donc moi, je ne pense pas, en tout cas, qu'il y ait d'office cette fonction de dénonciation ou de revendication. Je crois qu'elle est liée aussi au parcours. Il y en a qui vont être plus là-dedans, d'autres vont être plus dans de l'humour potache ou dans de l'humour juste pour faire rire.
Oui, puis je pense qu'il y a différents... Autant il y a différents degrés d'humour et de réception de l'humour, premier, second degré, voire plus. Et autant, je pense aussi qu'il y a plusieurs degrés dans le travail de production de l'humour. Il y a le premier degré qui consisterait à simplement faire rire. Le deuxième qui serait, en plus de faire rire, de faire un peu réfléchir. Le troisième degré, quand on veut s'y situer un peu de temps en temps sur un sujet en particulier, celui de contester. Et puis, des fois, cette fonction un peu sacralisée, celle quand on arrive à voilà, dénoncer. Un quatrième, j'en suis plus où j'en suis, mais quatrième ou cinquième degré, celui où on parvient avec le rire, la réflexion, la contestation, en plus de ça, à dénoncer, à dévoiler le non-dit par excellence. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des degrés de réception et de production.
Si cette question vous intéresse, il y a un ouvrage collectif sur humour et engagement politique par Lambert Lucas, auquel a participé entre autres Nelly, et voilà, il y a de tout là-dedans, donc vous verrez cette question de humour et engagement politique.
Et dirigé par...
Lambert Lucas. Ouais. Lambert Lucas.
Et dirigé par Patrick Charaudeau, en l'occurrence, avec un article de Patrick et un édito de Patrick. On va s'arrêter là, merci à vous toutes et tous. On se retrouve cet après-midi, 14h30, en espérant qu'on va commencer à l'heure. Voilà. Oui, bien sûr. Cet après-midi, on va parler davantage des procédés de l'humour, sur la ficelle de l'humour. Donc, c'est bien, ça allait dans la continuité de ce matin. Voilà. Merci beaucoup et bon appétit.